Cette petite réunion a lieu parce que 1989 a été l'année au cours de laquelle on a commémoré le centenaire de la mort de Barbet d'Aurevilly, et celui aussi de la mort de Villiers d'Annan d'ailleurs, qui est né aussi une année en 8, mais 30 ans après Barbet, et qui est mort lui aussi en 1889, c'est à peu près les seuls points qui les rapprochent. Et à cette occasion, ont paru quelques ouvrages, et au lieu de finir par là, vous aurez peut-être mieux commencé, qui pourront intéresser ceux d'entre vous qui veulent soit avoir quelques petites idées sur Barbet, soit approfondir les choses. Dans le genre des livres un petit peu légers, surtout biographiques, il y a ce Talon Rouge, là, de Lydekerk, qui est un journaliste du Figaro littéraire, je crois, quelque chose de ce genre-là. Puis ce livre d'une dame, il s'appelle Beauchamp Campanaire, la collection biographie chez Séguier, qui est aussi une biographie de Barbet, un peu légère aussi. Tout ça, c'est tout à fait le genre des livres qu'après sa mort, on a écrit sur Barbet, qui correspond au genre d'article qu'on faisait de son vivant, c'est-à-dire surtout des choses à caractère anecdotique. Il est vrai d'ailleurs que Barbet, qui était un grand producteur d'anecdotes, il était normal aussi qu'on l'envisage beaucoup sous un genre anecdotique et côtier. Le dernier en date des ouvrages parus, c'est un livre édité par l'Imprimerie Nationale, qui est excellent, ma foi, par le cartonnage qui n'est pas bien agréable. C'est l'édition des Diaboliques par Michel Crouzet, avec les illustrations de Dado. Vous connaissez ce personnage extraordinaire qui est Dado, qui ces jours-ci a des expositions multiples à Paris, qui est un homme qui a passé sa vie à peindre ses fantasmes intérieurs, c'est sous la forme de gnomes, là. Et alors, ben, pour Barbet, il a fait des gnomes, il a fait ses gnomes. Et le texte est de Crouzet. Et c'est un texte vraiment excellent, ça je recommande beaucoup l'achat de ce livre à ceux qui voudraient à la fois une bonne édition du texte le plus connu de Barbet et en même temps une préface et une présentation qui sont vraiment de qualité. Il y a aussi une réédition du Dandysme de Georges Brummel, son petit traité du dandysme qui date de 1844 je crois. C'est une bonne réédition sous une forme élégante, avec aussi une bonne introduction. C'est également une chose qu'on peut avoir quand on peut approfondir. Alors, si on veut aller plus loin, on tombe dans les ouvrages de critique à proprement parler qui ont été publiés sur Barbet cette année et qui tranchent absolument avec le genre de critique que Barbet a eu jusqu'à l'après-dernière guerre. Jusque-là, c'était une critique très superficielle et sentimentale, de sentiments, et alors après la guerre, c'est devenu, à partir de Jacques Petit, qui est l'auteur de l'ouvrage qui est à recommander plus que tout, en deux volumes, c'est Le Barbet de la Pléiade. À la suite de Jacques Petit, qui est mort, il y a encore toute une école de critiques très moderne, très structuraliste, entre guillemets, sur Barbet d'Aurevilly. Il y a eu 13 volumes de publiés par les éditions des Lettres modernes sur différents thèmes de l'œuvre de Barbet. Voilà le 12e qui est sur un prêtre marié, qui n'est pas piqué des vers. Je ne sais pas si Barbet se serait jamais attendu à voir sur le prêtre marié une étude qui est assez lacanienne et qui vraiment l'eût certainement étonné au-delà de toute expression. Mais enfin, bon, c'est une façon contemporaine d'aborder Barbet, c'est tout de même intéressant. Et il y a aussi, alors, sur le plan régional, il y a eu, la région de Basse-Normandie a fait appel à des critiques très modernes aussi, qui ont publié, notamment, là, une étude sur l'ensorcelé et les diaboliques. Ici, là, numéro des études normandes, aussi sur Barbet d'Aurevilly, écrivain normand, ça c'est peut-être moins intéressant parce que c'est un sujet qui a été très vite abordé. Et une autre sur deux textes de Barbet qu'on ne lit pas fréquemment, qui sont « Ceux qui ne meurent pas » et « Une page d'histoire ». Alors d'autre part, vous savez que Barbet était cette année au programme de l'agrégation, tout au moins l'ensorcelé et les diaboliques, et qu'à cette occasion, il y a eu plusieurs rééditions de poche des textes de Barbet, notamment chez Garnier Flammarion. Ça, vous pouvez vous... C'est une chose qu'on peut se procurer très facilement. avec préface, chronologie, et pas de notes d'ailleurs. Voilà.
De M. Seguin.
Enfin oui, et puis j'ai fait, oui, il y a aussi le Chevalier des Touches, l'Ensorcelé et les Diaboliques, mais il y a eu de rééditer que l'Ensorcelé et les Diaboliques. Il faut dire d'ailleurs que Barbet a connu un grand succès dans le domaine des livres de poche et des livres de club. Il y a eu depuis la dernière guerre au moins 20 ou peut-être même 25 éditions de Barbet en livres de club ou en livres de poche. Il y en a un dont, si on le trouve encore, dont la lecture s'impose, c'est le livre de poche tout simplement, l'édition des Diaboliques avec une préface extraordinaire de Julien Gracq, qui est un homme qui a compris admirablement Barbet et donné une nouvelle vision de son œuvre en rappelant qu'il ne fallait ne jamais oublier que derrière l'écrivain, il y avait le conversateur, le personnage qui était là. Alors justement, alors le personnage, c'est vrai, Barbet, c'est d'abord un personnage. C'est un homme qui est né le 2 novembre 1808. Les deux éléments ont leur importance. Le 2 novembre, c'est le jour des morts. Et toute sa vie, il fera allusion à cette naissance, le jour des morts. Barbet restera toute sa vie l'homme de l'échec. Et deuxièmement, il est né en 1808, c'est l'année des guerres de l'Empire, et il va, comme un certain nombre de gens de sa génération, comme Vigny par exemple, il va souffrir toute sa vie du manque que sera pour lui le fait de ne pas avoir participé à l'envolée des guerres de l'Empire, à la naissance du monde nouveau. Il dira quelque part, nous qui étions dans le ventre de nos mères au moment où tonnait le canon d'Austerlitz, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions ? Alors il naît dans une petite bourgade de Basse-Normandie, de cette région du Cotentin, là, qui est une région de peuplement normand très ancien, qui est enserrée par la mer. Et il naît dans une petite bourgade qui a environ 2000 habitants, il naît dans un petit manoir, petit château, petit manoir de sa famille, qui était une famille de petits nobles normands, sans de noblesse de robe, sans éclat, et qui n'ont pas vraiment participé aux événements de la Révolution, qui ont plutôt courbé la tête, qui n'en ont pas particulièrement pâti, tout au moins pas autant que d'autres, qui n'ont pas été mêlés à la chouannerie, sauf par la tradition orale et par leur environnement, et qui sont des gens pas extraordinaires. Sa mère était une joueuse invétérée, son père était un pater familias assez dur, assez isolé. Sa mère ne l'aima pas, elle le trouvait laid. Et ça, toute sa vie, il sera marqué par le fait que sa mère le trouvait laid, ou tout au moins l'idée que lui se faisait qu'elle le trouvait laid. Toute son enfance se passe dans le contexte des récits, d'une part d'une tradition. Cette famille, encore une fois, n'a pas pris une part importante à la lutte antirévolutionnaire, mais elle était ancrée dans une tradition monarchiste. Et puis aussi une tradition de catholicisme. Et mais dans le moment, dans sa jeunesse, en réalité, ces traditions-là lui pèsent, comme à tout jeune homme d'ailleurs, et il rompt très vite avec sa famille. Il va d'abord sagement faire des études à Paris, au collège Stanislas, où il rencontre Maurice de Guérin, qu'il retrouvera ensuite dans sa vie. Et puis il revient chez lui, mais vraiment, il n'accroche pas avec les siens. Il part à Caen, il va faire les études de droit, il fera une thèse, fort ordinaire, comme toutes les thèses de droit. Il n'empêche que si on en trouve un exemplaire, ça vaut très cher. Mais ça ne vaut pas plus, au fond, que la thèse de Céline sur la médecine. Alors il fait une thèse sur... Et il s'ennuie mortellement à Caen. Il écrit un petit peu, déjà, il écrit une ode en 1823 qu'il dédie à Casimir de Lavigne, qui s'appelle « Au héros des Thermopyles ». Enfin, c'est une œuvre extrêmement médiocre. Il revient chez lui sans goût. Et naturellement, son point de chute, c'est Paris. Il n'a pas beaucoup de relations, il a très peu d'argent. Toute sa vie, il aura très peu d'argent. Et à Paris, il mène une vie de dandy, ou de quelqu'un plus exactement qui voudrait être un dandy. Il se fait un idéal du dandy qui apparaîtra dans ce livre qui s'appelle « Du dandisme ». Dans lesquels il dépeint, comme ont pu le faire de son temps Balzac et d'autres de sa génération, il dépeint le dandy, l'homme qui ne veut rien avoir à faire avec la société qui l'environne et qui s'en distingue par un masque froid, Son dandysme n'est pas extravagant à ce moment-là, ce n'est pas cet excès de toilette qu'il y aura plus tard et dont je reparlerai. Non, c'est le dandysme froid, sobre, impertinent, qui consiste seulement, par exemple, le jour anniversaire des Trois Glorieuses, à sortir avec un œillet blanc à sa boutonnière, alors que les gens se plaisent dans la rue à arborer un œillet rouge. Et puis alors, c'est aussi l'époque où il est de très bon ton pour le dandy et pour les jeunes gens de sa société de mourir d'ennui. Alors il meurt d'ennui terriblement. Comme il meurt d'ennui, eh bien, il consomme beaucoup de spiritueux. Et parmi les spiritueux, il va rechercher les choses les plus extraordinaires, l'eau de Cologne, le Kirschwasser, etc. Enfin. Il cultive les femmes, bien entendu, ça fait aussi partie du rôle. C'est la bouquetière du coin, ce sont des amis de rencontre, ce ne sont pas des relations éclatantes. Il a peut-être d'ailleurs été mis en garde quelques années auparavant parce qu'il a rencontré une cousine à lui avec laquelle, alors là, il est allé beaucoup plus loin. Et ceci le marquera aussi pour toute sa vie. Alors on a un très bon tableau de sa vie de dandy, là, parce qu'il a écrit des mémoranda à partir de 1832, et il les a continués fort tard d'ailleurs, mais il y a un mémorandum d'avril 1838 qui dépeint très bien sa vie et celle des jeunes gens qui étaient autour de lui à ce moment-là.
Je rentre là et brisé. J'ai conquis du sommeil, j'espère, qu'il soit sans rêve et que je ne me réveille pas. Quelle fatigue que d'avoir une âme ou quelque chose qui y ressemble. Ennuyé jusqu'à la mort. René est venu. Tout est informe dans cette tête en fait d'idées. Le langage sain est même assez élégant, mais si c'est pour cacher ce que nous pensons que la parole nous a été donnée, la sienne fait merveilleusement son office, car on jugerait, d'après elle, qu'il ne pense rien du tout. Épouvanté de mon travail, mais content, et pris plaisir à rouler sa réserve sur les baïonnettes de mes opinions. Le fait est qu'à propos de peinture, j'ai traité haut la main et la houssine tous ces rapins qui singent l'artiste, tous ces génies en blouse qui, après s'être admiré le front sur la foi de Galle, empâtent intrépidement la couleur et se rêvent des Murillo, nabos qui ne croient pas même à Dieu et qui se font chrétiens entre deux orgies le temps de barbouiller un Christ. Vacher est venu, les railler implacablement tout en me faisant coiffer. Ce garçon attaque désagréablement mes organes. Les marmitons de Stanislas sont de beaucoup meilleure compagnie que lui. Sorti et remonté le boulevard avec Gaudin. N'ai vu personne. Dîner d'un appétit furieux. Pris un verre de Madère à Corazza. Aller avec Gaudin jusque chez King pour un habit. Revenu et rôder seul au boulevard et du côté du passage Saunier. Pourquoi cette pente ? C'est la disposition qui porte à déchirer la bandelette de sa blessure, car je ne plierai pas jusqu'à une démarche de rapprochement. Cela est de la destinée maintenant. Écris ceci, l'âme oppressée. Je sors de chez Apolline, Flore, où j'ai commandé le plus charmant des bouquets pour la promise de Guérin. C'est demain l'anniversaire de sa naissance et je dîne avec elle. Je me couche pour lire. Bonsoir. Levé après avoir fini un volume de mon ami Saint-Simon, fait allumer du feu. Commencer une longue, longue lettre à ma Louise. Le tailleur est venu. Interrompu pour essayer un amour d'habit qui fait à peindre et dont je vais offrir la virginité à mademoiselle Caroline de Gervin, la fiancée du poète. Repris ma lettre qui m'a balayé l'âme de l'écume des jours précédents. Je lui dis vrai, malgré ce que j'ai senti si vivement ces temps-ci, je l'aime autant que jamais. Mais c'est un amour tellement profond qu'il semble simple comme la vie, comme les choses de Dieu qui ne dépendent plus de nous. Si elle avait été là, si j'avais pu trouver près d'elle ce que j'y trouvais autrefois, je ne pense pas que ce qui a eu lieu fût arrivé. Angoisse de moins. Mais nous autres, créatures misérables, qui n'avons pas d'enfants à aimer, il faut que nous aimions quelque chose, et non de souvenirs, mais pour ainsi dire, pratiquement, une tête humaine à appuyer sur notre cœur. Lu à bâton rompu, voici le coiffeur. Habillons-nous, car on dîne de bonheur chez ces dames. Ouais. Je rentre. Une nuit sombre, un ciel rayé de larges bandes sur un fond gris, l'air doux, le sol humide, peu d'étoiles. revenu à pied par plaisir, moitié chantonnant, moitié songeant. Habillé tantôt, pris une voiture. Allé chez Apolline qui m'a trouvé adorablement mis, ce qui me fait presque autant de plaisir que de me trouver spirituel. Et pris un bouquet, allé chez Mademoiselle de la Forêt. Et embrassé la fiancée de Guérin sur les deux joues et sa tante par-dessus le marché. Le dîner bon, mais trop long. Quand il y a des femmes, il ne faut pas rester à table longtemps. N'ai pas beaucoup causé, sans entrain, sans verve. Aussi suis-je devenu, par le fait d'un dîner copieux, aussi torpide qu'un boa, réveillé de cet engourdissement par une violente palpitation. Suis sorti près de me trouver mal et craignant de faire quelques sottises. Guérin m'a conduit dans sa chambre où il m'a lu divers feuillets du journal de sa sœur. Quelle diction charmante et pleine de traits tellement rêveurs qu'il semble profond. Quelle distinction d'esprit, quelle noble fille, et que cet esprit est bien femme, et que cette âme est bien sœur, et que cette tendre relation de Guérin et d'elle est bien ce qu'elle doit être, la femme disant à l'homme « Tu sais, mais aime, j'aime, apprends-moi ». Cela est surtout marqué dans le désir ardemment exprimé de voir Guérin devenir pieux comme elle. Elle n'endoctrine pas, ne prêche pas, elle se rend compte de ce qui est l'obstacle et la supériorité de son frère. Mais elle s'écrie avec de ravissantes intonations « Ah, pourquoi ne crois-tu pas ? Ah, que je voudrais que tu crusses !» etc. Talent qui ne se doute pas de lui-même, naturel, chef-d'œuvre de perfection. Il y avait là une petite bretonne, plus très jeune, les mains peu délicates, les traits forts et irréguliers, vêtue de brun, et les cheveux lissés en bandeau et tombant en une seule boucle derrière l'oreille, l'air d'une Janine Dins, en somme, qui est jolie, de la plus jolie, à force de bien sourire, et par la vertu d'un certain regard de côté, en rejetant sa tête en arrière. Il est des yeux plus beaux, mais il n'est pas de regard plus plein de grâce, d'abandon, d'ensorcellerie, sans y songer, que ce regard qui vous tombe si mollement dans le vôtre, comme en se détournant. Encapricé de cette jeune fille, l'ai fait rougir plus d'une fois, parce que sans que je le lui ai dit, elle s'est aperçue qu'elle me plaisait. Mademoiselle de Gervin, pas jolie pendant le dîner, jolie après, avait un teint purifié, reposé, les yeux d'un scintillement doux. Qu'est-ce donc que la beauté qui s'efface d'une heure à l'autre pour revenir ? Singulière chose. Rentrée, bien, à cela près d'une velléité de migraine, causée, je crois, par le parfum des fleurs dont nous étions entourés. Me revoici dans ma solitude. La chambre en désordre, les flacons débouchés précipitamment au moment de partir, et restés, exhalant ce qu'ils n'enferment plus. Les vêtements sur les meubles, les livres et les papiers épars. Cette vie me pèse. Pas de lien, pas de foyer, une tente de nomade qu'on plie en quelques heures et qu'on emporte. C'est triste, passer 25 ans. Couché, écris ceci dans mon lit. C'est la dernière page de ce livre que Guérin a appelé « étrange ». Oh oui, étrange comme cette vie où Dieu a mis tant de petites choses à côté d'ambitieuses pensées. Combien de ces pages tracées à la hâte y en a-t-il qui ne soient pas consacrées à l'ennui, que j'appelais en commençant ce journal le Dieu de ma vie ? Ennui, isolation. Et pourtant je me suis découvert, cet an dernier, un intérêt jeune, vivant, plein de fraîcheur, croissant mystérieusement au fond de ce cœur que je croyais flétri et blasé, et y jetant silencieusement des racines profondes. Cet intérêt, il a fallu le tuer, l'anéantir, mais il était, je le sentais. Qui peut donc répondre de soi-même, et qui se connaît tout entier ? La nuit et le silence m'entourent, ils dorment tous, on n'entend ni vent, ni mouvement au dehors. À qui pensais-je à cette heure ? Et pourquoi cette obsession éternelle ? Mourrez ici, dernière folie d'un cœur brisé, et puisqu'il faut que la vie soit dévorée, que l'ennui l'arrache au regret, cela vaut encore mieux.
Voilà, c'est joliment écrit et intéressant d'ailleurs, ça mélange beaucoup de choses. Il y a un passage qui est très frappant et prémonitoire, là c'est le passage où il dit « Me revoici dans ma solitude, la chambre en désordre, des flacons débouchés précipitamment au moment de partir, etc. » Et en fait c'est comme ça qu'il mourra aussi. Il mourra dans un, ce qu'il appelait un tourne-bride de sous-lieutenant, la rue Rousselet, dans un deux pièces pauvre et mal meublé, avec pas de livres autour de lui d'ailleurs, entouré de gens qui sont là parce que quelqu'un de déjà célèbre malgré tout à ce moment-là, ça, et qui va mourir, ça attire. Enfin voilà, il mourra comme ça. Alors là-dedans, il y a cet ennui de ce dandysme, bien sûr, hein, c'est Apolline, c'est la fleuriste, c'est le coiffeur, c'est, etc. Puis il y a le fait qu'en réalité, on le voit bien, il lit, il travaille énormément, hein, passe pas son temps qu'à s'ennuyer, il n'y a rien à faire, on le voit dans le reste, il lit énormément, du français, de l'anglais, de l'italien. Et il écrit aussi, c'est l'époque où il commence à écrire, en particulier Germaine, en 1832, à Germaine, à, qui paraîtra en 1883, et sous le titre de « Ce qui ne meurt pas » et qui est un de ses bons livres. Il écrit aussi, à ce moment-là, le manuscrit de « L'amour impossible », qui sera son premier livre imprimé en 1841. Qui sera quelque chose de léger, de beaucoup plus léger que ce qui ne meurt pas, mais enfin, c'est le début d'une véritable écriture, et puis il écrit ses mémorandas. Puis en même temps qu'il s'ennuie et qu'il travaille aussi, eh bien, on sent par moments un emportement qui ne quittera pas non plus toute sa vie. Hein. Il voudrait toujours aller plus loin, aller plus vite, et casser tout ce qui s'opposera à sa, entre guillemets, réussite, et ça ne sera pas facile. Alors vers 1841, précisément, quand paraît l'amour impossible, et puis que paraissent des premiers recueils de poésie qui n'ont absolument aucun intérêt, il sera toujours un très mauvais poète, que paraissent aussi ses premiers articles de journalisme, et journaliste, d'abord il est bien obligé de journaliste parce que il n'aurait pas de quoi assurer sa subsistance, et il le sera jusqu'à la fin de sa vie. Vous savez, quand il mourra, on rééditera plus tard, je crois, 26 volumes, gros volumes, de son œuvre critique. Tandis qu'il poursuit donc ses activités de lecture et littéraire, eh bien, il mûrit aussi, on va s'en rendre compte plus années plus tard. Il n'a plus aucun contact avec sa famille, il a rompu définitivement, entre guillemets, avec elle en 1836, enfin définitivement, il a rompu avec, pour 20 ans avec elle. Et son frère s'est fait prêtre, c'est dans les années 1830, et pour Barbier, qui à ce moment-là est vaguement républicain, toujours en réaction contre sa famille, qui ne croit guère en Dieu. Pour lui, c'est son frère qu'il aimait beaucoup, c'est la chape de plomb, comme il dit, qui tombe sur ses épaules, et c'est la coupure définitive avec lui. Voilà que cet homme l'a quitté pour se donner à Dieu, et lui, Jules Barbet, va le perdre, et c'est pour lui, c'est une chose épouvantable aussi. Il a coupé avec tout, et il ne sent pas encore ce mûrissement qui se fait en lui. Qui va venir assez vite, parce que dès les années 45 environ, Barbet écrit une deuxième œuvre, si je fais un deuxième roman, si je pense à L'amour impossible, qui aura beaucoup plus de retentissement, au moins après sa vie, et qui est Une vieille maîtresse, les deux volumes d'Une vieille maîtresse, en deux parties, la première partie se déroulant en Normandie, et la deuxième partie à Paris. J'ai dit deux volumes, c'est trois volumes. Et par conséquent, il y a là l'amorce d'un mûrissement et sa matérialisation dans l'écrit, qui est de plus en plus importante. Il commence aussi, d'ailleurs, à se dégoûter de cette vie qu'il mène et qu'il appelait une vie de ribaud. Et il commence, 15 ou 20 ans après avoir rompu avec lui, il commence à se rapprocher de nouveau du catholicisme, de la religion de ses pères. Il va même assez loin, puisqu'il se lance parmi un groupe de gens qui fondent une société qui s'appelle la Société catholique, et qui est destiné, c'est pas la première fois, à rénover l'art catholique. Alors c'est une entreprise qui échoue, mais c'est de sa part au moins le témoignage d'une curiosité renouvelée pour l'Église catholique. Il s'intéresse même aussi à la société de son temps, ça le quittera presque aussitôt, et en 1848, il participe à un club d'ouvriers de la fraternité, enfin très vaguement, et il rompra aussi, enfin tout ça sont autant d'indications du fait qu'il sort du dandysme et du désœuvrement de la première partie de sa vie, et de l'inquiétude de la première partie de sa vie, pour s'ancrer dans des réalités. Il commence même en 1849 à rédiger les premières des Diaboliques, qui ne paraîtront que bien plus tard, qui ne paraîtront qu'en 1874. Et enfin, c'est le moment, en 1850, où il écrit ce qui sera restera probablement son meilleur livre, qui est L'Ensorcelé. Alors là, par rapport aux années 1838, ça fait 12 ans de différence, eh bien, il y a un changement vraiment très considérable, sur tous les plans, sur le plan personnel et sur le plan littéraire. Et va venir le temps où il va croire que sa vie va être une vie réussie. En particulier parce qu'il rencontre une femme. La première dont il rêvait, c'était sa cousine. Ça ne pouvait pas se faire et ça a été un échec. Toutes les autres, c'était des passades. Et il rencontre une femme, une veuve, qui, à son avis, réunit toutes les conditions pour le tirer du marasme et qui s'empare de lui, d'ailleurs, avec autorité. Et qui l'empêche de boire, et qui le ramène au catholicisme, et qui l'incite à aller revoir ses parents. Et en effet, en 1856, il rentre chez lui, rencontre ses parents, horrible déception, d'ailleurs, sont devenus d'épouvantables vieillards. Mais enfin, ça ne fait rien, il renoue avec tous les personnages de son enfance, avec les légendes qu'il a entendues. Enfin, c'est véritablement un re-ancrage, et dans la religion catholique, et dans son pays, et dans l'espoir d'une vie qui serve à quelque chose. Et puis, il y avait donc 12 ans qui nous séparaient de la fin de son dandysme de cette période-là, mais presque plus vite encore, ça va être de nouveau la chute. Et là, cette fois-ci définitive. Il se rend compte qu'avec Madame de Bouglon, ça n'ira pas plus loin qu'une grande amitié. La revisite de ses parents l'a déçu beaucoup. Son pays l'a ravi, oui, ça, son pays l'a ravi, mais la visite de ses parents l'a déçu beaucoup. Et le catholicisme avec lequel il renoue est un catholicisme dont on reparlera, qui est sincère, certes, mais enfin qui ne se nourrit pas beaucoup en profondeur et qui ne le soutiendra pas beaucoup. Et enfin, ses écrits, même L'Ensorcelé, n'ont pas le succès qu'il en attendait. Très vite, dans les environs de 1865, c'est de nouveau la chute, et ça n'est plus le jeune homme des années 1838, c'est déjà un homme de plus de 50 ans, et évidemment, ça se traduit d'une façon plus inquiétante. Il faut voir, par exemple, les photographies qu'a prises de lui Nadar, qui était un grand révélateur des gens. Et il a pris de lui deux photographies, dont l'une montre un homme inquiet, mais tout de même qui se tient bien, et l'autre montre au fond une sorte d'ivrogne, pourrait-on dire, enfin un homme aux yeux usés et aux chairs déjà un peu flasques, enfin le véritable témoignage d'un échec. Et à ce moment-là, Barbet, qui avait écrit « Portrait dépaysé, je cherche mon cadre », et qui toute sa vie a cherché son cadre, et qui toute sa vie a adoré les masques, à ce moment-là, résolument, il a adopté un masque de dandy, non pas du tout comme autrefois, le dandy dont l'idéal est de ne pas se faire remarquer, mais d'un dandy fracassant, paradoxal, cascadeur et provoquant. Et ce masque-là, il ne va pas le quitter jusqu'à la fin de sa vie. Ce sera comme dans sa jeunesse pour se séparer de sa société, mais alors qu'autrefois il cherchait à s'en séparer de telle façon qu'on ne le remarqua pas, tout en faisant très attention à ce qu'on le remarque, parce qu'on devait bien voir qu'il faisait attention à ce qu'on ne remarque pas. Et dans la deuxième partie de sa vie, c'est tout le contraire. Il veut épater le bourgeois, s'épater lui-même, épater le bourgeois, faire des tours de moulinet de façon à ce qu'il n'y ait personne à s'approcher trop près de lui, ni de son cœur, ni de ses relations, etc. Voilà, alors ça va être la deuxième partie de sa vie, mais ça va être aussi la plus constructive en même temps, parce que ça va être le temps de ses grands textes, et en particulier de l'achèvement des Diaboliques, qui vont pour la première fois lui apporter un succès, peut-être de scandale, mais aussi chez certains des critiques d'estime. Ce sont les années où il va se lier d'amitié avec Baudelaire, notamment, et avec enfin quelques écrivains qui comptent. Et ce sont les années où il va publier tous ces articles qui sont réunis plus tard sous le titre « Des œuvres et les hommes ». C'est les années de sa collaboration à à l'éclair, à la veilleuse, au constitutionnel, aux Gaulois, au Parlement, etc., etc. Et les années dans lesquelles va s'ancrer son retour à la Normandie. Ça, c'est la seule chose à laquelle il sera réellement demeuré fidèle jusqu'au bout, à laquelle il sera vraiment raccroché, et qui lui assurera ce qu'il y aura de sérénité dans la deuxième partie de sa vie. Voilà lequel était le barbé de la deuxième partie. Au total, il meurt là donc en 1889. Auparavant, il a eu une certaine vie mondaine, une vie mondaine un petit peu paradoxale aussi. Il aurait bien voulu fréquenter les salons du boulevard Saint-Germain. Ça, il en a toujours été écarté par ses attitudes qui ne plaisaient pas, par le fait qu'il n'était pas assez bien né, etc. Il est aussi écarté des milieux catholiques parce que c'est un catholique pas ordinaire. Il trouve le moyen de se brouiller avec tous les catholiques qui l'entourent, notamment avec Louis Veuillot, envers qui d'ailleurs il est assez injuste. Des amitiés politiques ne tiennent pas non plus, parce que précisément il a d'amitié politique avec les gens qui sont d'opinion différente de la sienne, qu'avec des républicains. En fait, société noble, il fréquente surtout les milieux juifs parisiens. Et voilà, c'est l'homme du paradoxe jusqu'à la fin. Dernières années venant, sa décrépitude physique s'accentue, ou plus exactement, elle est accentuée par le soin extravagant qu'il met à revêtir encore des toilettes de jeune homme et d'un autre âge. Il fait rire de lui. Anatole France raconte que c'était un ravissement pour lui enfant que de rencontrer Barbé, parce que ce personnage vraiment l'épatait. Tout ça, ça part d'une petite chambre de la rue Rousselet, assez misérable, dans laquelle il y a trois meubles Napoléon III, hideux. Au mur, rien que des choses médiocres, pas de livres. Il disait qu'il avait déjà assez de mal à écrire des livres, c'était pas pour les avoir en plus chez lui. Une besogne de forçat, parce qu'il était obligé de fournir de la copie aux journaux. Et sa fin sera encore beaucoup plus triste parce qu'il y a un certain nombre de morticoles qui s'abattent sur lui. Des batailles autour de lui entre, par exemple, Péladan, l'ineffable Péladan, et qu'il avait eu l'imprudence de laisser approcher de trop près Léon Blois. Péladan, Léon Blois, je ne sais pas si vous voyez ce que ça pouvait donner, c'était quelque chose d'épouvantable. Le tout sous le regard bienveillant mais tracassier d'une vieille demoiselle protestante, pour Barbet c'était le comble de l'abomination, qui s'appelait Louise Reed, et à qui Madame de Bouglon, pensant que cette intrigante venait lui ravir son bien, c'est-à-dire les droits que Barbet lui avait donnés à elle, Madame de Bouglon, sur son œuvre, à qui Madame de Bouglon venait faire des scènes terribles au point que peut-être la mort de Barbet était-elle due, outre l'accident qu'il a provoqué, à la réception d'un télégramme d'injures reçu de Madame de Bouglon et contre la possession qu'exerçait sur lui Mademoiselle Reed. Voilà ce qu'a été la vie de Barbet. Alors si on fait un petit bilan de cela, il y a peut-être un texte à lire là-dessus. Ah oui, sur le Barbet critique, on pourrait peut-être... Tout de même, on va rejoindre d'ailleurs là le côté paradoxal de Barbet, hein, Barbet critique et Barbet toilette, c'est un petit peu la même chose. Vous allez voir ce qu'il pouvait être physiquement en entendant ce qu'il disait, par exemple, de Pradon ou de qui de,
Il y a Émile Augier ou...
Des Émile Augier ou de...
Michelet, Ponsard.
Ah oui, Michelet, c'est beaucoup plus sérieux, on en parlera après. Mais Émile Augier ou Ponsard, vous allez voir.
Émile Augier, c'est essentiellement le poète du bourgeois. Il le rend heureux. Nous avons signalé plus d'une fois cette tendance qui est partout maintenant dans les arts, la philosophie, la littérature et que nous avons nommé le bourgeoisisme. Eh bien, Augier, comme Ponsard, est le poète de cette tendance, de même qu'Henri Martin et Amédée Thierry en sont les historiens. Le vers d'Augier est fluide, mais il n'est pas pur. Il coule, mais il n'a ni la langueur endormie des larges rivières, ni la fougue des torrents, ni les caprices des cascades. Or, couler seulement n'est pas une force, c'est même quelquefois une faiblesse. Augier appartient, par le manque de personnalité vigoureuse et cette facilité déplorable qui charme les sots et qui explique sa fortune, à cette race d'esprit de troisième degré qui sont entre les poètes et le public, mais plus du côté du public que du côté des poètes, et qui, descendant la poésie, toujours un peu altière, jusqu'au niveau des gens médiocres, diminuent dans leur production décolorée l'éblouissante et insupportable originalité des maîtres et la font accepter aux débilités qu'elle épouvante. Faire accepter la poésie en l'abaissant, voilà le secret du succès d'Émile Augier, de ce succès qui sera éphémère. Il coupe avec de l'eau de Seine ce vin généreux, mûri par le soleil sur les rampes ardentes des volcans, et il épargne un mal de tête aux bourgeois, plein de reconnaissance.
Ben, comprenez comme il pouvait avoir des amis à l'Académie. Alors, il y en a un autre qui est très bien aussi, là, c'est Ponsard, le pauvre Ponsard.
Ponsard, on le fait remarquer qu'on l'a à la bibliothèque.
Pourquoi pas?
Monsieur Ponsard, j'aime à dire Monsieur Ponsard comme j'aime à dire Monsieur Prudhomme. C'en était un de forte encolure, et ce sont les prud'hommes qui le regrettent et qui le pleurent. C'est le prud'homisme qui l'a statufié. Avant, comme depuis sa mort, tout le monde a toujours donné à l'honorable Monsieur Ponsard, comme ils disent à la Chambre, une importance de par-dessus les moulins. Or, tout le monde n'aime pas la poésie. Ce mets des dieux reste dans l'assiette de bien des sots. Ils aiment mieux la pomme de terre. Eh bien, la pomme de terre, c'est précisément Monsieur Ponsard. Un jour, dans une fête à popularité quémandée, Louis XVI, le pauvre roi qui a perdu le plus sa coquetterie à la canaille, mit à sa boutonnière la fleur du tubercule de Parmentier. C'est la fleur que tous les ponsardins peuvent mettre à la leur. C'est la fleur de la poésie ponsard, poésie pomme de terre. Espèce de nourriture vulgaire, farineuse, mais pas malsaine, pour les pauvres littéraires qui ont des tiraillements poétiques, comme la pomme de terre pour les pauvres tout court qui ont des tiraillements d'estomac.
Il s'assurait comme ça une grande solitude autour de lui. Et au fond, ses poses, ses dédicaces, ses mots, tout ça, c'était la même chose. C'était sans de dandysme de la deuxième période, c'était le paradoxe. Alors quand il parle de Michelet, là c'est beaucoup plus sérieux, parce que, autre paradoxe, cet homme qui était un catholique, un traditionnaliste, tout à fait affirmé, ne pouvait avoir qu'horreur de Michelet. D'ailleurs, il avait horreur de Michelet. C'est pas pour lui la révolution qui est la bête omnie. Ça commence au moins au XVIe siècle, et la façon dont Michelet a écrit l'histoire, eh bien, c'est véritablement très pécamineuse. Mais voilà le problème, c'est que si Baudelaire aussi, après tout, devait pouvoir l'épouvanter par bien des aspects, Baudelaire, c'est d'abord un homme d'un immense talent à ses yeux, et puis Michelet aussi. Baudelaire, c'est un homme désintéressé, et puis Michelet aussi. Et ça, pour Barbet, ça comptait avant tout. Hein. Proudhon, par exemple, trouve grâce à ses yeux, parce que c'est un homme désintéressé. Pour lui, c'est quelque chose de tout à fait particulier. D'autre part, Baudelaire, comme Michelet, c'est des hommes qui écrivent d'une façon forte. Et ça, pour Barbet, la force dans la vie, dans l'écrit, c'est une vertu primordiale. Alors voilà, il s'emporte, tout en trouvant Michelet absolument intolérable sur le plan des idées, eh bien, sur le plan du langage et sur le plan des sentiments, il l'accueille.
Cet accent qui charme, c'est l'accent chrétien, déplacé,
il
oui,
le convertit,
mais subsistant et plus fort que Michelet lui-même. Michelet, en effet, cet ennemi, ce contempteur du christianisme, était un chrétien malgré lui, malgré la haine qui voulait être violente de sa pauvre âme dévoyée contre le christianisme pour lequel surtout elle était faite. Au fond, la haine de Michelet n'est guère qu'une haine de Tourterelle en colère. Certes, nous ne réclamons pas aujourd'hui son cadavre et nous réprouvons autant que jamais la tendance générale et le mal absolu de ses œuvres. Mais nous réclamons ce qui appartient au sentiment chrétien dans ses œuvres, à travers les plus mortelles erreurs. Et que cette réclamation tardive, faite sur sa tombe, soit la punition de sa mémoire. Car le meilleur châtiment du coupable, c'est de montrer qu'il n'était pas fait pour son crime. Et qu'en le commettant, il ne transgressait pas seulement la loi divine, mais les plus profonds et les plus nobles instincts de son cœur.
Barbet, ça a été aussi un Normand. On a beaucoup abusé du côté Normand Barbet. On l'a, après que son pays l'eut rejeté, n'est-ce pas, quand la famille Léopold de Lille croisait les Barbet, on s'éloignait, enfin, de ne pas les saluer. tant la réputation de Jules était mauvaise. Mais depuis, la Normandie a récupéré Barbet et vient de le fêter avec gloire l'an dernier. Et l'on a convié le grand écrivain Alain Decaux à venir célébrer son 100e anniversaire, ce qui a dû lui faire un plaisir immense dans sa tombe. Bon, Barbet, ça c'était un Normand et c'est ce qu'il a été le plus sincèrement. C'est un homme qui a aimé son pays vraiment dans sa chair. Il n'a pas beaucoup aimé la mer, mais il a beaucoup aimé la terre. Il a très très bien compris. Il a compris les paysages, il a compris la poésie, il a compris les gens du pays. Il en a compris la langue, d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, on parlait encore, surtout dans le nord du Cotentin, un dialecte assez particulier, et tout ce qu'il en cite est juste. Et c'est vraiment un homme qui aimait son pays. Il l'aimait aussi en traditionnaliste, car Barbet a été aussi, c'est un autre aspect, un homme de la tradition. Il a eu horreur de vivre au XIXe siècle, et il a continué de vivre, non pas au XVIIIe siècle, il était un petit peu du XVIIIe siècle par certains côtés de sa langue, tout de même, par certains traits qu'il n'avait pas pu ne pas hériter de ses parents qui étaient nés à ce moment-là. Mais enfin, il en abhorrait les lumières. C'était pour lui, c'était quelque chose de catastrophique. Ça n'était que l'aboutissement de ce qui s'était passé depuis le XVIe siècle. Non, c'est pas ça qu'il voyait dans la tradition. Ce qu'il voyait dans la tradition, c'était l'Église dans toute sa force, l'Église d'avant le XVIe siècle et d'avant les capitulations successives qui ont amené à la Révolution. Et à ce passé-là, il était extraordinairement attaché. Là aussi, comme pour le dandy, il a un attachement paradoxal. Le livre politique qu'il publie, ce recueil qu'il publie, s'appelle « Les prophètes du passé ». Il se range parmi les prophètes du passé, il n'a aucune illusion, il n'est afféodé à aucun mouvement monarchiste de son époque, il ne croit pas du tout au retour des Bourbons, il est sans indulgence pour eux, il est au fond, il est comme Chateaubriand, il est attaché par le cœur et par l'imagination à une certaine idée qu'il se fait d'une monarchie qui n'aurait pas été corrompue par tout ce par quoi elle s'est laissée corrompre. Traditionnaliste en politique, Barbet est aussi un catholique. Il y a eu des éclipses dans sa jeunesse. En réalité, il revient volontiers au catholicisme au milieu de sa vie. Alors, quel catholicisme ? Bon, on en a évidemment beaucoup discuté, parce que c'est un catholicisme qui effrayait déjà beaucoup les catholiques de son temps, qui a effrayé encore davantage les libres penseurs au moment de la publication de Diabolique. Les principaux adversaires de Barbet à ce moment-là, au nom de la morale, n'ont pas été les catholiques, mais la gauche, paradoxalement aussi. Et on a donc beaucoup discuté de ce catholicisme, c'est vrai que c'était un catholicisme un peu particulier, un peu sentimental, un peu traditionnel, fait de souvenirs qui n'étaient pas seulement les siens. Quand on lui demandait pourquoi il ne communiait pas, il répondait « Monsieur, j'éclaterai ou j'exploserai, je ne sais pas quoi ». Il s'en tirait par une pirouette. C'était pas un mystique, il croyait surtout à la vertu de la religion catholique en tant qu'institution. Et institution capable en particulier de préserver le monde de sa chute, encore que il ait jugé que la papauté était bien compromise avec le libéralisme et que c'était une chose bien épouvantable. C'est aussi autre chose, c'est un homme qui avait certainement une certaine communion avec Dieu. On sent ça dans L'Ensorcelé quand il décrit l'Église et les cérémonies qui s'y passent. On sent que réellement il sentait quelque chose, il n'avait pas là une révélation du type claudélien, mais il avait tout de même la certitude d'une présence divine. Et il est certainement mort aussi en catholique, après avoir toute sa vie pourtant pratiqué un catholicisme un peu curieux. Catholicisme, d'ailleurs, notion à laquelle il faut rattacher le diabolisme. Il y a eu le titre « Les diaboliques » et puis Dieu sait si on l'a repris. Et c'est vrai que le diable est partout présent dans l'œuvre de Barbet, qui dit beaucoup que s'il croit à Dieu, il croit aussi au diable, que l'enfer c'est le ciel en creux, après tout, et que ce qu'il y a d'intéressant à observer sur la terre, c'est pas les effets de Dieu, c'est les effets du diable. Alors, ben, ça c'est l'artiste qu'on retrouve là. Là, il croit au diable. Quel diable ça ? Alors là, c'est un diable bien innocent à côté de celui qu'on décrit beaucoup d'écrivains et d'artistes. Il est certain que ce n'est pas un diable très épouvantable, c'est beaucoup plus un diable littéraire et esthétique qu'un diable véritablement effrayant. Voilà, Barbet, c'est un dandy, c'est un normand, c'est un traditionnaliste, c'est un homme emporté. Toute sa vie, c'est un homme qui sera emporté, qui veut toujours aller devant, plus loin, plus vite, etc. De quoi il n'en sait rien du tout, d'ailleurs. Il entend encore les canons d'Austerlitz, et il faut qu'il réussisse, il faut qu'à peine il a écrit un manuscrit, il l'interrompt, il en écrit un autre, il a un autre projet, on voit ça dans sa correspondance, enfin tout ça fourmille, elle s'agite dans sa tête, il prend une chose, il la dépose, il la reprendra 10 ans après, 20 ans après, et il voudrait toujours aller plus vite et plus loin. Et en cela, il échouera lamentablement, certainement que dans ces dernières années, de ce côté-là, le bilan a dû être terrible pour lui comparé à ce qu'il aurait voulu faire. C'est d'ailleurs l'homme de l'échec, ça. Qu'il porte l'échec en lui et au fond, il chérit l'échec. Ça se voit chez tous les personnages de ses romans, tout échoue et au fond, sauf sans doute le bonheur dans le crime, enfin ça se paie de la mort de la comtesse de Savigny. Mais c'est vraiment l'homme de l'échec et pas de la pitié. Comme de même que c'était l'homme du diable et pas du ciel. Il avait promis les célestes après les diaboliques, et déjà en le promettant, il disait « s'il se trouve un azur assez pur », et il était bien persuadé qu'il n'en trouverait pas, il n'en souhaitait pas. Et la même chose pour l'échec, au fond, je ne sais pas si la réussite et quelle réussite lui aurait convenu. Il s'est indiscutablement satisfait d'un certain échec. Il y a une chose dans sa vie, et je crois que c'est par là que je terminerai avant qu'on ne le cite, et ça introduira ses citations. Il y a une chose dans sa vie qu'il a réussi, et que, par exemple, n'a pas réussi Andrieux La Rochelle, qui le disait à la veille de sa mort, et lui au moins il a été un écrivain. Il a fait son bonheur, un certain bonheur, sa plénitude du geste de l'écriture. Il a été un écrivain, et de ce point de vue-là, en dépit du mauvais accueil qui a été fait à ses œuvres de son vivant, il a toujours au fond porté en lui, au moins à partir de L'Ensorcelé, à partir des années 50, la certitude qu'il écrivait une œuvre. Et ça, ça a été son bonheur. C'est là qu'il a trouvé son accomplissement. Alors j'espère qu'on va s'en rendre compte. Vous connaissez, vous avez tous lu du Barbet, mais enfin pour ceux qui n'avaient pas lu, là j'ai choisi quelques passages. Dans Les Diaboliques, c'est ça, dans 12 ou 4 parties de Whist, et c'est la peinture, ça, de la vie à Valognes. Valognes, c'est une petite ville morte. Il a toujours aimé vivre avec les morts, les spectres, les fantômes, etc. Mais des gentils spectres, des gentils morts, tous ceux de ses parents, des gens qui l'avaient précédé, des gens qu'il aimait bien. Et il était beaucoup plus tranquille avec eux qu'avec les vivants qui étaient insupportables.
J'ai été élevé en province, dit le narrateur mis en demeure de raconter, et dans la maison paternelle. Mon père habitait une bourgade, jetée nonchalamment les pieds dans l'eau, au bas d'une montagne, dans un pays que je ne nommerai pas, et près d'une petite ville qu'on reconnaîtra quand j'aurai dit qu'elle est, ou du moins qu'elle était dans ce temps, la plus profondément et la plus férocement aristocratique de France. Je n'ai depuis rien vu de pareil, ni notre faubourg Saint-Germain, ni la place Bellecour à Lyon, ni les 3 ou 4 grandes villes qu'on cite pour leur esprit d'aristocratie exclusif et hautain, ne pourraient donner une idée de cette petite ville de 6000 âmes qui, avant 1789, avait 50 voitures armoriées, roulant fièrement sur son pavé. Il semblait qu'en se retirant de toute la surface du pays, envahie chaque jour par une bourgeoisie insolente, l'aristocratie se fût concentrée là, comme dans le fond d'un creuset, et y jeta, comme un rubis brûlé, le tenace éclat qui tient à la substance même de la pierre et qui ne disparaîtra qu'avec elle. La noblesse de ce nid de nobles, qui mourront ou qui sont morts peut-être dans ces préjugés que j'appelle, moi, de sublime vérité sociale, était incompatible comme Dieu. Elle ne connaissait pas l'ignominie de toutes les noblesses, la monstruosité des mésalliances. Les filles, ruinées par la Révolution, mouraient stoïquement, vieilles et vierges, appuyées sur leurs écussons qui leur suffisaient contre tout. Ma puberté s'est embrasée à la réverbération ardente de ces belles et charmantes jeunesses qui savaient leur beauté inutile, qui sentaient que le flot de sang qui battait dans leur cœur et teignait d'un carnat leurs joues sérieuses, bouillonnait vainement. Mais 13 ans ont rêvé les dévouements les plus romanesques devant ces filles pauvres qui n'avaient plus que la couronne fermée de leur blason pour toute fortune, majestueusement tristes dès leur premier pas dans la vie, comme il convient à des condamnés du destin. Hors de son sein, cette noblesse, pure comme l'eau des roches, ne voyait personne. « Comment voulez-vous, disait-il, que nous voyions tous ces bourgeois dont les pères ont donné des assiettes aux nôtres ?» Ils avaient raison. C'était impossible, car pour cette petite ville, c'était vrai. On comprend l'affranchissement à de grandes distances. Mais sur un terrain grand comme un mouchoir, les races se séparent par leur rapprochement même. Ils se voyaient donc entre eux et ne voyaient qu'eux et quelques Anglais. Car les Anglais étaient attirés par cette petite ville qui leur rappelait certains endroits de leur comté. Ils l'aimaient pour son silence, pour sa tenue rigide, pour l'élévation froide de ses habitudes, pour les quatre pas qui la séparaient de la mer qui les avait apportés, et aussi pour la possibilité d'y doubler, par le bas prix des choses, le revenu insuffisant des fortunes médiocres dans leur pays. Fils de la même barque de pirates que les Normands, à leurs yeux, c'était une espèce de Continental England que cette ville normande, et ils y faisaient de longs séjours. Les petites miss y apprenaient le français en poussant leur cerceau sous les grêles tilleuls de la place d'armes. Mais vers 18 ans, elles s'envolaient en Angleterre, car cette noblesse ruinée ne pouvait guère se permettre le luxe dangereux d'épouser des filles qui n'ont qu'une simple dot, comme les Anglaises. Elles partaient donc. Mais d'autres migrations venaient bientôt s'établir dans leurs demeures abandonnées, et les rues silencieuses, où l'herbe poussait comme à Versailles, avaient toujours à peu près le même nombre de promeneuses à voile vert, à robe à carreaux et à plaid d'Écossais. Excepté ces séjours, en moyenne de 7 à 10 ans, que faisaient ces familles anglaises, presque toutes renouvelées à de si longs intervalles, rien ne rompait la monotonie d'existence de la petite ville dont il est question. Cette monotonie était effroyable. On a souvent parlé, et que n'a-t-on point dit, du cercle étroit dans lequel tourne la vie de province. Mais ici, cette vie, pauvre partout en événements, l'était d'autant plus que les passions de classe à classe, les antagonismes de vanité, n'existaient pas comme dans une foule de petits endroits où les jalousies, les haines, les blessures d'amour-propre entretiennent une fermentation sourde qui éclate parfois dans quelques scandales, dans quelques noirceurs, dans une de ces bonnes petites scélératesses sociales pour lesquelles il n'y a pas de tribunaux. Ici, la démarcation était si profonde, si épaisse, si infranchissable entre ce qui était noble et ce qui ne l'était pas, que toute lutte entre la noblesse et la roture était impossible. En effet, pour que la lutte existe, il faut un terrain commun et un engagement. Et il n'y en avait pas. Le diable, comme on dit, n'y perdait rien, sans doute. Dans le fond du cœur de ces bourgeois, dont les pères avaient donné des assiettes, dans ces têtes de fils de domestiques, affranchis et enrichis, il y avait des cloaques de haine et d'envie. Et ces cloaques élevaient souvent leur vapeur et leur bruit d'égout contre ces nobles, qui les avaient entièrement sortis de l'orbe de leur attention et de leur rayon visuel depuis qu'ils avaient quitté leur livrée. Mais tout cela n'atteignait pas ces patriciens distraits dans la forteresse de leurs hôtels qui ne s'ouvraient qu'à leurs égaux et pour qui la vie finissait à la limite de leur caste. Qu'apportait ce qu'on disait d'eux, plus bas qu'eux ? Ils ne l'entendaient pas. Les jeunes gens qui auraient pu s'insulter, se prendre de querelles, ne se rencontraient point dans les lieux publics, qui sont des arènes chauffées à rouge par la présence et les yeux des femmes. Il n'y avait pas de spectacle. La salle manquant, jamais il ne passait de comédiens. Les cafés, ignobles comme des cafés de province, ne voyaient guère autour de leur billard que ce qu'il y avait de plus abaissé parmi la bourgeoisie, quelques mauvais sujets tapageurs et quelques officiers en retraite, débris fatigués des guerres de l'Empire. D'ailleurs, quoique enragé d'égalité blessée, ce sentiment qui à lui seul explique les horreurs de la Révolution, ces bourgeois avaient gardé, malgré eux, la superstition des respects qu'ils n'avaient plus. Le respect des peuples ressemble un peu à cette sainte ampoule dont on s'est moqué avec une bêtise de tant d'esprit. Lorsqu'il n'y en a plus, il y en a encore. Le fils du babelotier déclame contre l'inégalité des rangs. Mais seul, il n'ira point traverser la place publique de sa ville natale où tout le monde se connaît et où l'on vit depuis l'enfance, pour insulter de gaieté de cœur le fils d'un Clamorgan Taillefer, par exemple, qui passe donnant le bras à sa sœur. Il aurait la ville contre lui. Comme toutes les choses haïes et enviées, la naissance exerce physiquement sur ceux qui la détestent une action qui est peut-être la meilleure preuve de son droit. Dans les temps de révolution, on réagit contre elle, ce qui est la subir encore. Mais dans les temps calmes, on la subit tout au long. Or, on était dans une de ces périodes tranquilles, en 1820 et quelques, le libéralisme qui croissait à l'ombre de la charte constitutionnelle, comme les chiens de lys grandissaient dans leur chenil d'emprunt, n'avait pas encore étouffé un royalisme que le passage des princes, revenant de l'exil, avait remué dans tous les cœurs jusqu'à l'enthousiasme. Cette époque, quoi qu'on en ait dit, fut un moment superbe pour la France, convalescente monarchique, à qui le couperet des révolutions avait tranché les mamelles, mais qui, pleine d'espérance, croyait pouvoir vivre ainsi et ne sentait pas dans ses veines les germes mystérieux du cancer qu'il avait déjà déchiré et qui, plus tard, devra la tuer. Pour la petite ville que j'essaie de vous faire connaître, ce fut un moment de paix profonde et concentrée. Une mission qui venait de se clore avait, dans la société noble, engourdi le dernier symptôme de la vie, l'agitation et les plaisirs de la jeunesse. On ne dansait plus. Les bals étaient proscrits comme une perdition. Les jeunes filles portaient des croix de mission sur leurs gorgerettes et formaient des associations religieuses sous la direction d'une présidente. On tendait au grave, à faire mourir de rire si l'on avait osé. Quand les quatre tables de whist étaient établies pour les douairières et les vieux gentilshommes, et les deux tables d'écartées pour les jeunes gens, ces demoiselles se plaçaient comme à l'église, dans leur chapelle, où elles étaient séparées des hommes, et elles formaient dans un angle du salon un groupe silencieux pour leur sexe, car tout est relatif, chuchotant au plus quand elles parlaient, mais bâillant en dedans à se rougir les yeux et contrastant par leur tenue un peu droite avec la souplesse pliante de leur taille, le rose et le lilas de leur robe et la folâtre légèreté de leur pèlerine de blonde et de leur ruban.
Voilà. Petit tableau rêvé par Barbet de la vie à Valognes au moment de son enfance. Alors dans le même recueil des diaboliques, vous avez un dîner daté. Alors là, c'est un tableau diamétralement opposé. Ce sont aussi des gens de cette petite ville, dont un médecin, le docteur Torti, que Barbet avait bien connu, de qui il avait appris ce qu'il savait de médecine, et Barbet était très curieux de médecine. Et puis aussi quelques nobles dévoyés, entre guillemets, de la ville, et en particulier l'ancien officier de l'Empire, qui sacrifie dans cette même petite ville, à la coutume du déjeuner gras du Vendredi Saint, au cours desquels il raconte les histoires les plus épouvantables, y compris celle d'une fille qu'on trousse et qui porte des hosties à des malades du temps de la chouannerie et qu'on arrête, qu'on violente, dont on prend les hosties, qu'on jette à des pourceaux, etc. Donc, dans cette même petite ville se déroulent aussi ces scènes abominables. Et le pire, c'est que Barbet, on le voit en lisant cette nouvelle diabolique, éprouve une certaine estime pour la force diabolique, il est vrai, et négatrice et abominable, mais enfin de ces personnages qu'il trouve que quand on renie Dieu et la société qu'il vient de décrire avec cette force, ça ne manque pas non plus d'un certain charme. On arrive au fameux tableau, enfin pour moi fameux, de l'arrivée de la diligence à Valognes. Le fameux soir où on va voir ce rideau cramoisi derrière lequel s'est passé beaucoup plus tôt pour un des personnages qui se trouve dans cette diligence, l'épisode fameux de ces nuits passées avec cette jeune fille un peu, comment dirait-on, hystérique, on disait à l'époque de la fin de Barbet, qui meurt dans une étreinte et pour ramener cette jeune fille dans son lit, il faut traverser la chambre des parents. Ce qui est quelque chose d'épouvantable, et ensuite comparaître devant son colonel et lui expliquer ce qui s'est passé, ce qui n'est pas facile non plus. Mais là, n'en sommes pas là, on va assister à l'arrivée de la diligence dans cette petite ville, au voyage de nuit. Ils sont là deux compères qui vont bavarder, le héros d'histoire et un autre. Et d'ailleurs, tout le temps dans l'œuvre de Barbet, ça c'est une des grandes constances, tout le temps il y a des conversations. partout barbé, conversateur, et derrière son œuvre. Et c'est ce que dit fort bien Julien Gracq, on sent son ombre, on sent sa présence. Et quand Robes a illustré les diaboliques, il a montré ça, il a montré le personnage de Barbet qui est derrière tout ce qu'il écrit.
La nuit, qui en automne semble tomber à pic du ciel, tant elle vient vite, nous saisit de sa fraîcheur, et nous roulâmes dans nos manteaux, cherchant de la tempe, le dur coin qui est l'oreiller de ceux qui voyagent. Je ne sais si mon compagnon s'endormit dans son angle de coupé, mais moi je restais éveillée dans le mien. J'étais si blasée sur la route que nous faisions là, et que j'avais tant de fois faite, que je prenais à peine garde aux objets extérieurs, qui disparaissaient dans le mouvement de la voiture, et qui semblaient courir dans la nuit, en sens opposé à celui dans lequel nous courions. Nous traversâmes plusieurs petites villes, semées, çà et là, sur cette longue route, que les postillons appelaient encore un fier ruban de queue, en souvenir de la leur, pourtant coupée depuis longtemps. La nuit devint noire comme un four éteint, et dans cette obscurité, ces villes inconnues par lesquelles nous passions avaient d'étranges physionomies et donnaient l'illusion que nous étions au bout du monde. Ces sortes de sensations que je note ici, comme le souvenir des impressions dernières d'un état de choses disparues, n'existent plus et ne reviendront jamais pour personne. À présent, les chemins de fer avec leurs gares à l'entrée des villes ne permettent plus aux voyageurs d'embrasser en un rapide coup d'œil le panorama fuyant de leurs rues, au galop des chevaux d'une diligence qui va tout à l'heure relayer pour repartir. Dans la plupart de ces petites villes que nous traversâmes, les réverbères, ce luxe tardif, étaient rares et on y voyait certainement moins bien que sur les routes que nous venions de quitter. Là, du moins, le ciel avait sa largeur et la grandeur de l'espace faisait une vague lumière, tandis qu'ici, le rapprochement des maisons qui semblaient se baiser, leurs ombres portées dans ces rues étroites, le peu de ciel et d'étoiles qu'on apercevait entre deux rangées des toits, tout ajoutait au mystère de ces villes endormies, où le seul homme qu'on rencontra était, à la porte de quelque auberge, un garçon d'écurie avec sa lanterne, qui amenait les chevaux de relais et qui bouclait les ardillons de leur attelage en sifflant ou en jurant contre ses chevaux récalcitrants ou trop vifs. Or cela, et l'éternelle interpellation, toujours la même, de quelques voyageurs ahuris de sommeil, qui baissaient une glace et criaient dans la nuit, rendue plus sonore à force de silence. Où sommes-nous ? Où sommes-nous donc, postillons ? Rien de vivant ne s'entendait et ne se voyait autour et dans cette voiture pleine de gens qui dormaient, en cette ville endormie, où peut-être quelques rêveurs, comme moi, cherchaient à travers la vitre de son compartiment à discerner la façade des maisons estompées par la nuit, où suspendait son regard et sa pensée à quelques fenêtres éclairées encore à cette heure avancée, en ces petites villes aux mœurs réglées et simples, pour qui la nuit était faite surtout pour dormir. La veille d'un être humain, ne fût-ce qu'une sentinelle, quand tous les autres êtres sont plongés dans cet assoupissement qui est l'assoupissement de l'animalité fatiguée, a toujours quelque chose d'imposant. Mais l'ignorance de ce qui fait veiller derrière une fenêtre au rideau baissé, où la lumière indique la vie et la pensée, ajoute la poésie du rêve à la poésie de la réalité. Du moins pour moi, je n'ai jamais pu voir une fenêtre éclairée la nuit dans une ville couchée par laquelle je passais, sans accrocher à ce cadre de lumière un monde de pensée, sans imaginer derrière ces rideaux des intimités et des drames. Et maintenant, oui, au bout de tant d'années, j'ai encore dans la tête de ces fenêtres qui y sont restées éternellement et mélancoliquement lumineuses et qui me font dire souvent, lorsqu'en y pensant, je les revois dans mes songeries. Qui avait-il donc derrière ces rideaux ?
C'est un fort beau passage. Ça se rattache aussi à, précisément à l'art de conversateur de Barbet. Il y a toujours dans ses nouvelles de ces longues introductions qui précèdent le dévoilement petit à petit de l'histoire elle-même. Puis il y a toujours cette idée aussi de voir derrière le rideau. Il écrit quelque part dans une des préfaces un texte sur les diaboliques qui dit que c'est diabolique, c'est l'enfer vu à travers un soupirail. Et voilà, petit à petit, on va vers l'enfer, l'enfer de la situation qui va se dérouler ensuite et qui, là, a un tour très familier et très simple et très calme. Toute autre chose, c'est pris à une autre Est-ce diabolique avez... qui ne ressemble pas aux autres. C'est un dandy parisien.
Vers la fin du règne de Louis-Philippe, un jeune homme enfilait un soir la rue Basse du Rempart, qui dans ce temps-là méritait bien son nom de rue Basse, car elle était moins élevée que le sol du boulevard et formait une excavation toujours mal éclairée et noire, dans laquelle on descendait du boulevard par deux escaliers qui se tournaient le dos, si on peut dire cela, de deux escaliers. Cette excavation, qui n'existe plus et qui se prolongeait de la rue de la Chaussée-d'Antin à la rue Caumartin, devant laquelle le terrain reprenait son niveau, cette espèce de ravin sombre où l'on se risquait à peine le jour, était fort mal hanté quand venait la nuit. Le diable est le prince des ténèbres. Il avait là une de ses principautés. Au centre, à peu près de cette excavation, bordée d'un côté par le boulevard formant terrasse, et de l'autre par de grandes maisons silencieuses à portes cochères et quelques magasins de bric-à-brac, il y avait un passage étroit et non couvert, où le vent, pour peu qu'il fît du vent, jouait comme dans une flûte et qui conduisait le long d'un mur et des maisons en construction jusqu'à la rue Neuve des Mathurins. Le jeune homme en question, et très bien mis du reste, qui venait de prendre ce chemin, lequel ne devait pas être pour lui le droit chemin de la vertu, ne l'avait pris que parce qu'il suivait une femme qui s'était enfoncée, sans hésitation et sans embarras, dans la suspecte noirceur de ce passage. C'était un élégant que ce jeune homme, un gant jaune, comme on disait des élégants de ce temps-là. Il avait dîné longuement au café de Paris et il était venu, tout en mâchonnant son cure-dent, se placer contre la balustrade à mi-corps de Tortoni, à présent supprimée, et guigner de là les femmes qui passaient le long du boulevard. Celle-là était justement passée plusieurs fois devant lui. Et quoique cette circonstance, ainsi que la mise trop voyante de cette femme et le tortillement de sa démarche fussent de suffisantes étiquettes, quoique ce jeune homme qui s'appelait Robert de Trécigny fût horriblement blasé et qu'il revint d'Orient, où il avait vu l'animal femme dans toutes les variétés de son espèce et de ses races, à la cinquième passe de cette déambulante du soir, il l'avait suivi chiennement, comme il disait, en se moquant de lui-même, car il avait la faculté de se regarder faire et de se juger à mesure qu'il agissait, sans que son jugement, très souvent contraire à son acte, empêchât son acte, ou que son acte nuisit à son jugement, asymptote terrible. Trécigny avait plus de 30 ans. Il avait vécu cette niaise première jeunesse qui fait de l'homme le Jocrisse de ses sensations, et pour qui la première venue qui passe est un magnétisme. Il n'en était plus là. C'était un libertin déjà froidi et très compliqué de cette époque positive, un libertin fortement intellectualisé, qui avait assez réfléchi sur ses sensations pour ne plus pouvoir en être dupe, et qui n'avait peur ni horreur d'aucune. Ce qu'il venait de voir, ou ce qu'il avait cru voir, lui avait aspiré la curiosité qui veut aller au fond d'une sensation nouvelle. Il avait donc quitté sa balustrade et suivi, très résolu à pousser à fin, la très vulgaire aventure qu'il entrevoyait. Pour lui, en effet, cette femme qui s'en allait devant lui, déferlant onduleusement comme une vague, n'était qu'une fille du plus bas étage. Mais elle était d'une telle beauté qu'on pouvait s'étonner que cette beauté ne l'eût pas classée plus haut et qu'elle n'eût pas trouvé un amateur qui l'eût sauvée de l'abjection de la rue. Car à Paris, lorsque Dieu y plante une jolie femme, le diable, en réplique, y plante immédiatement un sceau pour l'entretenir. Et puis encore, il avait, ce Robert de Trécigny, une autre raison pour la suivre que la souveraine beauté que ne voyaient peut-être pas ces Parisiens, si peu connaisseurs en beauté vraie, et dont l'esthétique, démocratisée comme le reste, manque particulièrement de hauteur. Cette femme était pour lui une ressemblance. Elle était cet oiseau moqueur qui joue le rossignol dont parle Byron dans ses mémoires avec tant de mélancolie. Elle lui rappelait une autre femme, vue ailleurs. Il était sûr, absolument sûr que ce n'était pas elle, mais elle lui ressemblait à s'y méprendre, si se méprendre n'avait pas été impossible. Et il en était du reste plus attiré que surpris, car il avait assez d'expérience comme observateur pour savoir qu'en fin de compte, il y a beaucoup moins de variétés qu'on ne croit dans les figures humaines, dont les traits sont soumis à une géométrie étroite et inflexible et peuvent se ramener à quelques types généraux. La beauté est une, seule, la laideur est multiple, et encore sa multiplicité est bien vite épuisée. Dieu a voulu qu'il n'y eût d'infini que la physionomie, parce que la physionomie est une immersion de l'âme à travers les lignes correctes ou incorrectes, pures ou tourmentées du visage. Tressigny se disait confusément tout cela en mettant son pas dans le pas de cette femme qui marchait le long du boulevard, sinueusement, et le coupait comme une faux, plus fière que la reine de Saba du Tintoret lui-même, dans sa robe de satin safran au ton d'or, cette couleur aimée des jeunes romaines, dont elle faisait, en marchant, miroiter et crier les plis glacés et luisants, comme un appel aux armes. Exagérément cambrée, comme il est rare de l'être en France, elle s'étreignait dans un magnifique châle turc à larges raies blanches, écarlates et or. Et la plume rouge de son chapeau blanc, splendide de mauvais goût, lui vibrait jusque sur l'épaule. On se souvient qu'à cette époque, les femmes portaient des plumes penchées sur leur chapeau, qu'elles appelaient des plumes en saule pleureur. Mais rien ne pleurait en cette femme, et la sienne exprimait bien autre chose que la mélancolie. Tressigny, qui croyait qu'elle allait prendre la rue de la Chaussée-d'Antin, étincelante de ses mille becs de lumière, vit avec surprise tout ce luxe piaffant de courtisane, toute cette fierté impudente de fille enivrée d'elle-même et des soins qu'elle traînait, s'enfoncer dans la rue basse du rempart, la honte du boulevard de ce temps. Et l'élégant, aux bottes vernies, moins brave que la femme, hésita avant d'entrer là-dedans. Mais ce ne fut guère qu'une seconde. La robe d'or, perdue un instant dans les ténèbres de ce trou noir, après avoir dépassé l'unique réverbère qui les tatouait d'un point lumineux, reluisit au loin, et il s'élança pour la rejoindre. Il n'eut pas grand-peine. Elle l'attendait, sûre qu'il viendrait. Et ce fut alors qu'au moment où il la rejoignit, elle lui projeta bien en face, pour qu'il pût en juger, son visage, et lui campa ses yeux dans les yeux avec toutes les effronteries de son métier. Il fut littéralement aveuglé de la magnificence de ce visage empâté de vermillon, mais d'un brun doré comme les ailes de certains insectes, et que la clarté blême, tombant en maigre filet du réverbère, ne pouvait pas pâlir.
Voilà. Le Tressigny, évidemment, c'est Barbé Dandy, peut-être qu'il aurait voulu être Dandy. Et puis ça, c'est un spécimen d'un style de barbé beaucoup plus précieux, presque kitsch par moment, assez différent de celui qu'on a trouvé dans les autres passages. Alors l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez tous, et pas banale non plus, parce que cette dame, c'est tout simplement la duchesse d'Arcos de Sierra Leone, grande d'Espagne, qui a eu un amant. Et son mari l'a découvert, et son mari a tué son amant sous ses yeux. Il l'a dépecé, il en a pris le cœur et il l'a donné à manger à ses chiens. Alors, ça a beaucoup déplu à cette dame qui, pour se venger, s'est faite prostituer et qui va mourir quelques années plus tard à la Salpêtrière et se fera enterrer avec la mention de fille repentie sur sa tombe. Toutes ces diaboliques-là n'ont pas été écrites aux mêmes dates et on y trouve plusieurs styles d'histoire et plusieurs styles d'écriture aussi. Voilà, donc c'est encore un autre aspect du talent de Barbé historien et je pense qu'on pourrait terminer par un récit. Un de ces récits emportés comme il y en a dans Barbé. Il y en a beaucoup dans le Chevalier des Touches. Il y a le récit, par exemple, de l'assaut de la prison d'Avranches par les Chouans, opération manquée d'ailleurs. Et il y a le récit aussi du meunier passé au bleu dont les Blancs se vengent en l'accrochant vivant aux ailes de son moulin et qui va agoniser d'une façon épouvantable en faisant tomber son sang partout. Et là, c'est le récit de la mort de Laclotte. Laclotte, c'est un personnage tel qu'on en trouve aussi dans Un prêtre marié. C'est une femme de la campagne de populaire, qui a une jeunesse très pécamineuse, en particulier dans l'orbite de l'abbé Joël de la Croix-Jugan, qui est le héros du livre, qui va ensorceler la pauvre Jeanne de Hardouet, qui était le compagnon des débauches de jeunesse. Et elle se rend compte que Jeanne de Hardouet, à qui elle voue un véritable culte aussi, que Jeanne de Hardouet, qui sitôt qu'elle a vu l'abbé, a été atteinte de cette rougeur qui ne la quittera jamais, et dans les pieds perçages de Barbet, beaucoup de femmes conçoivent cette rougeur presque aussitôt et ne quittent pas les maudits et les ensorcelles et les restent jusqu'à leur mort. Cette femme veut au moins aller assister à l'enterrement de Jeanne de Hardouet. Et elle ne va pas y arriver parce que elle va être surprise en route par une bande de garçons qui, eux, sont la résurgence du phénomène bleu. Ce sont les enfants de gens qui ont été bleus et qui, à sa vue, retrouvent leur haine des blancs qu'elle représente pour eux. Et ça va se passer très, très mal.
Ah, oh, j'achèverai l'œuvre de mon père, fit le boucher mis hors de lui par le mot de la clotte. Il ne t'a que rasé, vieille louve, mais moi je te prendrai par ta tignasse et je t'écalerai comme un mouton. Et joignant le geste à la menace, il leva sa main épaisse, accoutumée à prendre le bœuf par les cornes pour le contenir sous le couteau. La tête menacée resta droite, mais un coup la sauva de l'injure. Une pierre lancée du sein de cette foule, que l'inflexible dédain de la clotte outrait, atteignit son front d'où le sang jaillit, et la renversa. Mais renversée, les yeux pleins du sang de son front ouvert, elle se releva sur ses poignets de toute la hauteur de son buste. « Lâche » cria-t-elle, quand une seconde pierre sifflant d'un autre côté de la foule la frappa de nouveau à la poitrine et marqua d'une large rosace de sang le mouchoir noir qui couvrait la place de son sein. Ce sang eut, comme toujours, sa fascination cruelle. Au lieu de calmer cette foule, il l'enivra et lui donna la soif avec l'ivresse. Des cris « À mort, la vieille sorcière !» s'élevèrent et couvrirent bientôt les autres cris de ceux qui disaient « Arrêtez, non, ne la tuez pas !» Le vertige descendait et s'étendait, contagieux dans ces têtes rapprochées, dans toutes ces poitrines qui se touchaient. Le flot de la foule remuait et ondulait, compact à tout étouffer. Nulle fuite n'était possible qu'à ceux qui étaient placés au dernier rang de cette tassée d'hommes, et ceux-là, curieux, et qui discernaient mal ce qui se passait au bord de la fosse, regardaient par-dessus les épaules des autres et augmentaient la poussée. Le curé et les prêtres, qui entendirent les cris de cette foule en émeute, sortirent de l'église et voulurent pénétrer jusqu'à la tombe, théâtre d'un drame qui devenait sanglant. Ils ne le purent. « Rentrez, monsieur le curé, » disaient des voix. « Vous n'avez que faire là. C'est la sorcière de la clotte, c'est cette profaneuse dont on fait justice. Je vous rendrai demain votre cimetière purifié. » Et en disant cela, chacun jetait son caillou du côté de la clotte, au risque de blesser ceux qui étaient rangés près d'elle. La seconde pierre, qui avait brisé sa poitrine, l'avait roulée dans la poussière, abattu au pied d'Auger, mais non évanoui. Impatient de se mêler à ce martyr, mais trop près d'elle pour la lapider, le boucher poussa du pied ce corps terrassé. Alors, comme la tête coupée de Charlotte Corday qui rouvrit les yeux quand le soufflet du bourreau souilla sa joue virginale, la clotte rouvrit ses yeux pleins de sang à l'outrage d'Auger et dit d'une voix défaillante. « Auger, dit-elle, je vais mourir. » Mais je te pardonne si tu veux me traîner jusqu'à la fosse de Mademoiselle de Feuardent et m'y jeter avec elle pour que la vassale dorme avec les maîtres qu'elle a tant aimés. Il n'y a plus de maître ni de demoiselle de Feuardent, répondit Auger, redevenu bleu tout à coup et brûlant des passions de son père. Non, tu ne seras pas enterré avec celle que tu as envoûtée par tes sortilèges, fille maudite du diable, et je te donnerai mes chiens. Et il leur refrappa de son soulier ferré au-dessus du cœur. Puis, avec une voix éclatante, « La v'là écrasée dans son venin, la vipère » fit-il. « Allons, garçon, qui a une clef que je puisse entraîner sa carcasse dessus ?» La question glissa de bouche en bouche, et soudain, avec cette électricité qui est plus rapide et encore plus incompréhensible que la foudre, des centaines de bras rapportèrent pour réponse, en la passant des uns aux autres, la grille du cimetière arrachée de ses gonds, sur laquelle on jeta le corps inanimé de la Clotte. Des hommes haletants s'attelèrent à cette grille et se mirent à traîner, comme des chevaux sauvages ou des tigres, le char de vengeance et d'ignominie qui prit le galop sur les tombes, sur les pierres, avec son fardeau. Éperdu de férocité, de haine, de peur révoltée, car l'homme réagit contre la peur de son âme, et alors il devient fou d'audace. Ils passèrent comme le vent rugissant d'une trombe devant le portail de l'église, où se tenaient les prêtres rigides d'horreur et livides. Et renversant tout sur leur passage, en proie à ce délirium très mince des foules redevenues animales et sourdes comme les fléaux, ils traversèrent en hurlant la bourgade épouvantée et prirent le chemin de la lande. Où allait-il ? Ils ne le savaient pas. Ils allaient comme va l'ouragan, ils allaient comme la lave s'écoule. Seulement, chose moins rare qu'on ne croirait, si on connaissait les convulsifs changements des masses, à mesure qu'ils avançaient dans leurs exécutions terribles, ils devenaient moins nombreux, moins ardents, moins furieux. Cette foule, cette légion, cet immense animal multiple, à plusieurs têtes, à plusieurs bras, perdait de sa toison d'homme ou allié des chemins. Ses rangs s'éclaircissaient. On voyait les uns se détacher des autres et s'enfuir en silence. On en voyait rester au détour d'une route et ne pas rejoindre la troupe effrénée et clamante, pris de frissons, de remords, d'horreur lentement venue, mais enfin ressentie et glacée. Ce n'était plus qu'une poignée d'hommes, la lie du flot qui écumait il n'y avait qu'un moment. La conscience du crime revenait sur eux et sur ce fond et bas-fond humain qui s'opiniâtre au crime quand les coups de violence sont passés, et toujours allant, mais moins vite, elle grandit si fort en eux cette conscience qu'elle les arrêta court, de son bras fort et froid comme l'acier. La peur du crime qu'ils venaient de commettre et qui peu à peu avait décimé leur nombre prit aussi ces derniers qui traînaient sur sa clé de fer cette femme tuée par eux, assassinée. Une autre peur s'ajouta à cette peur. Ils entraient dans la lande, le terrain des mystères, la possession des esprits, la lande incessamment arpentée par les pâtres rôdeurs et sorciers. Ils n'osèrent plus regarder ce cadavre souillé de sang et de boue qui leur battait les talons. Ils le laissèrent et s'enfuirent, se dispersant comme les nuées qui ont versé le ravage sur une contrée se dispersent, sans qu'on sache où elles ont passé. Le silence s'étendit dans ces campagnes, devenues tout à coup solitaires.